Salut à tous et bienvenue dans ce Bazookast bonus de l'émission saison 1 épisode 8. Bonus qui va vous présenter les quelques questions que je n'avais pas diffusées lors de l'émission précédente. Les questions à Eric Morand, le fondateur du label FCOM. Si je vous dis Laurent Garnier, Monsieur Oiseau, Saint-Germain, tout ça c'est le label FCOM, un des pionniers dans la musique électronique française. Et quelques questions n'avaient pas été diffusées dans la précédente émission, je vous les avais promises dans ce Bazookast bonus. Et on va les écouter, ces réponses. Alors, beaucoup de gens ont énormément apprécié la franchise d'Eric, qui prouve qu'on peut être responsable d'un label, tout à fait au courant des nouvelles pratiques concernant les téléchargements, le peer-to-peer, les musiques libres, etc. Et on va continuer à avoir la lucidité d'Eric sur quelques points. Alors, une des questions que j'avais posées à Eric, un peu provoque, c'était que moi j'avais 16 ans en 94 quand sont sortis les premiers albums de Laurent Garnier ou Saint-Germain sur FCOM. À cette époque, FCOM c'était la modernité, un certain sentiment d'appartenir à la génération des machines, à une génération techno, donc technophile. Et paradoxalement, c'est en 2006 les progrès technologiques qui vont embêter FCOM sur le terrain de la musique, avec les téléchargements, avec cette génération d'internet. Alors ma question, c'était: les progrès technologiques n'ont-ils finalement pas créé une vraie crise, surtout pour les labels de musique électronique? Voilà ce que Eric m'a répondu.
Si, mais enfin, je veux dire, la technologie elle est ce qu'elle est, ensuite c'est l'utilisation qu'on en fait, quoi. Mais moi je pense que la technologie, enfin je pense qu'internet et la téléphonie mobile c'est des inventions géniales, c'est la façon dont elles sont utilisées par l'être humain et quand elles sont juste source de profit. C'est le même débat qu'on peut avoir par rapport à l'atome, c'est-à-dire que l'atome ça peut être super bien quand même, c'est quand même une énergie relativement pratique par rapport à d'autres et tout. Maintenant c'est vrai que ça sert aussi à faire des bombes et voilà, quoi, je veux dire. Donc mais voilà, mais ensuite je pense qu'on ne peut pas arrêter la technologie, et je pense qu'il faut vivre avec son temps, et on ne peut pas revenir à l'industrie du disque de 92, et voilà. Donc il y a des choses qui bougent, quoi. Et que je pense que moi je ne suis pas inquiet pour la musique, je suis absolument pas inquiet là-dessus. Je pense que la musique, je vois de plus en plus de gens dans la rue avec des baladeurs, beaucoup plus que même il y a 10 ans. Donc ça veut dire que les gens écoutent beaucoup beaucoup plus de musique, et ils ont accès à beaucoup plus de musique aussi, quoi. Je veux dire, le problème c'est que il y a en effet cette espèce de notion de consommation gratuite, et que ça veut dire quand même que les artistes qui sont entourés de pas mal de gens qui leur facilitent la vie normalement dans le développement de leur vie professionnelle peuvent demain se retrouver un petit peu tout seuls, et puis voilà. Donc bon, mais si c'est l'avancée des choses, ça sera l'avancée des choses, et voilà. Je pense que ce débat-là, il est au-delà de la musique, il est vrai pour le cinéma, il est vrai pour toute la consommation, enfin tous les biens culturels, et je pense que là aussi, par moment, il faut essayer d'avoir une vision un peu plus globale, c'est-à-dire qu'on est en Occident, enfin en Europe, en Amérique du Nord, dans des générations où depuis la Seconde Guerre mondiale, on se dit la société des loisirs, c'est vachement important pour votre équilibre mental, c'est vachement bien, si tu vas pas au cinéma, si t'écoutes pas de musique, tu comprends rien à la vie, tu rates ta vie. Quand on va dans l'ensemble de la planète, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette société de loisirs et société de consommation. Je ne sais pas s'ils sont plus ou moins heureux, mais par moment, il faut aussi avoir l'analyse de se dire, est-ce que tout ça, c'est essentiel dans notre vie? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Et quel rapport on a là-dedans? Est-ce qu'on a vraiment un espèce de rapport par rapport à l'art et à la création? Ou est-ce que dans la culture, c'est-à-dire que nous, en France, on a une vision de culture, mais dans beaucoup de pays, notamment en Angleterre ou aux États-Unis, tout ça est constitué comme du business, de l'entertainment. Et donc voilà, donc il faut vraiment avoir un espèce de décodeur pour se dire, bon, tout ça, c'est quoi? Est-ce que ce qui m'intéresse vraiment, est-ce que j'ai vraiment un regard en tant que consommateur? Est-ce que émotionnellement, ça change ma vie, ou est-ce qu'en fait je consomme la musique, le cinéma ou un jeu vidéo comme je vais acheter une baguette de pain ou un t-shirt Gap, quoi, tu vois. Donc voilà.
Voilà, réflexion très intéressante d'Eric sur finalement qu'est-ce que la consommation de musique en 2006, quelle est la place de notre musique dans notre vie, dans ce monde occidental très merchandisé. Bref, c'était Ça allait assez loin comme réflexion. Et j'avais posé une autre question à Eric concernant la contrainte mécanique, puisqu'un label se doit de reproduire physiquement des morceaux, même si le téléchargement a bonne place chez FCOM. Ma question, c'était qu'en techno-électro, il y a une autre contrainte mécanique, c'est que la plupart des titres sont pressés également en vinyle. Alors je demandais à Eric si c'était une contrainte qui alourdissait ses coûts, ou au contraire quelque chose qui permettait de fidéliser son public à l'objet disque.
Moi, et je trouve vraiment très difficile aujourd'hui pour un label, pour un artiste, c'est que non seulement on est sur des marchés déclinants, mais en plus on a une multiplicité des supports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit faire du vinyle, on doit faire du CD et on doit faire du digital, ce qui est quand même trois mondes complètement différents, des réseaux de distribution différents, et des investissements à la base différents pour des marchés qui en fait se morcellent énormément. Le vinyle est encore présent, c'est-à-dire que c'est encore important parce qu'il y a encore des magasins de disques qui ne distribuent que du vinyle, il y a des DJ qui ne jouent que du vinyle. Maintenant, c'est un marché qui a encore décliné là depuis 2 ans et il y a quand même un énorme point d'interrogation au-dessus de ce marché. Je pense pas qu'il disparaîtra totalement, mais c'est vrai que sa viabilité compte tenu du prix de vente d'un vinyle devient un peu absurde. Et en même temps, je vais un peu prêcher contre ma paroisse, mais un vinyle à 7 ou 8 euros alors qu'on peut avoir un titre à 99 cents sur iTunes, on peut se dire est-ce que tout ça a un sens, quoi. Je veux dire, alors c'est vrai que les passionnés seront toujours très accros au vinyle, etc., etc. Depuis 3 ans quand même, la plupart des DJ ont aujourd'hui une platine CD à côté d'eux parce qu'elle leur offre des possibilités au niveau créativité technique de faire des boucles, des faits, etc., que le vinyle n'offre pas, quoi.
Bonne comparaison de la part de Eric sur le quantitatif qualitatif entre un vinyle et un MP3 téléchargé. Là, Eric parle du MP3 téléchargé légalement que le DJ utilise, mais on ne parle pas aussi de toute la grande majorité des DJ de balles et du DJ de tous les jours qui téléchargent illégalement les morceaux. Pour être allé à Moscou la semaine dernière pour le boulot de ma vraie vie, j'ai pu assister à des soirées où les DJ possédaient sur leur laptop des milliers de morceaux qu'ils avaient téléchargés, bien sûr illégalement, et cette pratique-là est à prendre en compte aussi dans la discipline. Mais la notion de légal-illégal en Russie est encore une fois très compliquée concernant les MP3, puisque je suis rentré dans des magasins qui avaient pignon sur rue et où la moitié des rayons étaient constitués de ce qu'ils appellent les compiles MP3, c'est-à-dire des disques contenant toute la discographie d'artistes, de tous les artistes, Madonna, Michael Jackson, Stevie Wonder, les Cure, les Smiths, tous les groupes les plus connus au monde, U2. Un CD, 25 albums par CD, des MP3 encodés à 192 kilobits par seconde, vendus dans des magasins, comme je le dis, qui avaient pignon sur rue, pas dans le marché d'à côté. C'est un phénomène incroyable, jamais on imaginerait voir ça en France. La propriété intellectuelle est encore complètement bafouée en Russie, et c'est une véritable aubaine pour ce pays qui s'approprie des années de culture manquées, on va dire, par le biais de ces MP3. Bref, c'est quelque chose de très intéressant et de très complexe. Une autre question que j'avais posée à Eric concernant la scène. Et oui, la scène, j'ai posé cette question à Eric. Si les ventes des disques sont en diminution, les concerts par contre attirent de plus en plus de public. Et si les gens téléchargent plus en apparence, même gratuitement, ils payent en revanche facilement leur billet de concert. Alors j'ai demandé à Eric, la scène électronique n'a-t-elle pas aussi souffert de sa culture DJ, du caractère anonyme de ses artistes et des performances live, où les grands performeurs, les gens qui sont généreux sur scène, se font rares au détriment d'une scène rock peut-être un peu plus généreuse. Voilà ce qu'Eric a répondu.
La scène électronique, elle a souffert de la banalisation de, comme tous les genres musicaux, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment, quand un nouveau genre arrive, c'est l'excitation parce que c'est un truc nouveau, et puis ensuite ça se multiplie, ça se vulgarise, et puis bon, les gens sont un petit peu, et puis quand ça se vulgarise, ben il y a du bien, il y a du pas bien, et puis les gens, à force d'être déçus, ils passent à autre chose, mais voilà, mais je sais pas si elle en a plus souffert que d'autres genres musicaux, que ce qui a pu se passer dans le hip-hop ou voilà. Je pense que il y a des très bons groupes de rock, il y a des très mauvais DJ, quoi. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Il y a des DJ qui, mais là aussi, enfin, il y a des gens quand ils sont sur scène qui ont une démarche généreuse et qui sont des vrais performeurs, et puis il y en a d'autres qu'on sait pas pourquoi ils sont sur scène, parce qu'ils ont l'air de pas être très heureux, en tous les cas de pas donner beaucoup aux gens, quoi. Donc voilà, c'est c'est vrai que par moment on peut se dire dans le live électronique qu'il n'y a pas la dimension, l'espace de création qu'il peut y avoir sur un Mac acoustique. Mais je pense que pourquoi essayer de comparer exactement les choses, c'est-à-dire que l'électronique amène quelque chose de différent par rapport à ce qu'est un groupe de rock et tout, et je pense que tout est intéressant. Il ne faut pas forcément essayer de retrouver exactement les mêmes choses. Moi, il y a un truc sur lequel je suis entièrement convaincu, c'est que il y aura toujours des DJ et il y aura toujours de la musique de danse. Ça existe depuis la nuit des temps, les gens auront toujours besoin de danser. Donc voilà, que médiatiquement certaines personnes, certains journaux, certaines télés, certains leaders d'opinion se disent ouais, le rock, il y a que ça de vrai, fine, c'est les mêmes qui disaient la même chose en 88 et 90, donc et 94, donc voilà, donc c'est pas grave. C'est Jeff Mills a toujours parlé du côté cyclique de la roue, quoi. Je veux dire, en Chine il y a le principe du Tao, du haut et du bas, ben voilà, donc c'est pas grave, hein, ça reviendra.
Et oui, la retourne surtout dans les genres musicaux, et je suis sûr que la musique électronique finira par prendre sa revanche. Ma dernière question à Eric concernait justement l'entité F-Com, qu'il n'a jamais appelé F-Records, mais plutôt F-Communication. Et il est vrai que F-Com, à côté de ses sorties de disques, fait beaucoup de projets mêlant le design sonore à l'architecture. Un des exemples les plus flagrants est l'aménagement sonore et design du e-hôtel à Nice, avec la designeuse Nathalie Crassé. Donc je demandais à Eric d'expliciter un peu plus la démarche d'F-Com par rapport à ça. Finalement, le label n'a-t-il pas plusieurs cordes à son arc ?
Si on l'a appelé F-Com, c'est parce qu'on voulait pas se limiter juste à des disques, et en ça je pense qu'on on l'a senti le vent venir, et voilà, parce que je veux dire, la notion même de maison de disques, moi chaque fois que je vois le mot maison de disques maintenant dans un journal, je hurle de rire parce que je ne sais pas ce que les maisons vendent encore comme disques aujourd'hui, mais je pense qu'on est, enfin voilà, pour nous on a toujours été une espèce de maison de musique, et on communique autour de la musique, et on fait des projets autour de la musique, donc que c'était des concerts, que ça soit quand les gens du e-hôtel nous ont contactés, ou le rapprochement avec Nathalie. Mais voilà, il y a eu plein de projets différents qu'on a fait, et on continue à en faire toujours en permanence des choses. Je veux dire, quand on fait un plateau F-Com aux Vieilles Charrues, c'est pas vraiment une activité discographique, quoi. C'est encore autre chose. Et donc c'est vrai qu'on aime bien faire des choses différentes avec Laurent, ça nous a toujours tenu à cœur. Quand on fait des vidéos, quand on faisait des quasi courts-métrages sur les vidéos de Laurent ou des choses comme ça, voilà, on a toujours essayé d'aller un peu ailleurs parce que c'est intéressant. Donc le e-hôtel, ça a été la première fois que des gens nous ont contactés en disant voilà, on voudrait que vous fassiez tout l'espace, le design sonore d'un lieu comme le e-hôtel. Et ça a été l'occasion de rencontrer Nathalie Crassé, et bon, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 3 ans et qui est super intéressant, et qui depuis, nous, je veux dire, on a régulièrement des gens qui nous contactent par rapport à ce genre de projet de faire du design sonore dans un espace. Alors des fois on dit oui, des fois on dit non, parce qu'on n'a pas envie de faire tout et n'importe quoi, et voilà. Mais c'est vrai que là on a fait une exposition, par exemple on a fait la bande son pour une exposition pour le magazine Bill Bokeh, qui a eu lieu aux Nouvelles Galeries là au mois de février, je crois que février. Donc voilà, c'est des coups de cœur, mais oui, c'est intéressant. Le lieu commun, ça a été de la rencontre avec Nathalie et Ron, le fait que malgré nos 3 univers différents, architectes, musique, designer, enfin styliste, on se rendait compte que on avait les mêmes problématiques pour exposer notre travail aux gens, quoi. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un espace commun sur lequel on peut montrer les créations qu'on fait, c'était assez intéressant, quoi. Donc voilà, et on aura certainement d'autres projets comme ça, un petit peu de rencontres, aussi bien dans la musique que sur des rapports entre la musique et autre chose, quoi.
Voilà, continuer à explorer les différentes mises en application de la musique électronique, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à F-Com, label comme je le dis mythique, à qui nous souhaitons encore une très longue vie. Merci à Eric Morand pour sa franchise, son anti-langue de bois, sa disponibilité et surtout la richesse de ses idées, qu'il est très intéressant d'écouter en ces périodes agitées concernant la MP3, le téléchargement et l'industrie du disque. Voilà, je vous donne rendez-vous pour le Bazookast saison 1 émission 9, qui est en ce moment en phase d'écoute. N'hésitez pas, si vous êtes artiste en Creative Commons ou en licence libre, à m'envoyer vos morceaux. Je vous donne rendez-vous à bientôt. À plus, ciao.